France Inter.
France Inter. Le 18-20. François Geffrier.
Le TGV laisse-t-il à quai une partie de la France et des Français? Cette fierté tricolore qui bâtit des records de vitesse des années 80 aux années 2000 et qui emmène quotidiennement des passagers de Lille à Paris, à Marseille, à Strasbourg, à Rennes, est-il le symbole de ces grands plans décidés depuis Paris et dessinés en étoile avec la capitale comme noyau incontournable? Ce qui est contournable, apparemment, c'est le Massif Central. Par exemple, largement contourné, ça saute aux yeux sur une carte par la nouvelle liaison TGV annoncée par la SNCF, Lyon-Bordeaux, une transversale? Non, une jolie courbe qui remonte jusqu'à Paris, ou plutôt Massy en région parisienne. 5 heures à bord, sans correspondance donc, mais sans le moindre passager monté à Clermont-Ferrand, Limoges ou Brive, puisque le TGV, c'est inouï, n'y traîne pas ses roues. Il faut dire qu'il n'y a même pas de ligne à grande vitesse sur ce territoire, et que si on y faisait passer un TGV, il roulerait à la vitesse d'un tortillard, un peu du gâchis pour cette bête de course. Alors, injustice ou logique de desservir le plus grand nombre, rentabilité à toute vitesse ou péréquation oubliée, le TGV devrait-il être utilisé comme un outil d'aménagement du territoire? Pourquoi a-t-on supprimé les TGV qui desservaient la Creuse il y a quelques années? Pourquoi, à l'inverse, les 4000 habitants du Croisic ont-ils droit à la visite régulière de ces rames? On régale une partie du pays, pas de régalade pour tout le monde. Et qui décide de tout cela? Est-ce à la SNCF, à l'État ou aux élus locaux de trancher? Toutes ces questions, vous nous les posez, au téléphone sonne et quelque chose me dit qu'on parlera aussi du prix des billets qui a tendance à chauffer, notamment en cette semaine de Noël. Pas de cadeau de ce point de vue-là.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Bonsoir Marie-Hélène.
Bonsoir.
C'est vous la première passagère de ce téléphone sonne, on vous écoute.
Oui, c'est ce que j'entends, bonsoir, merci de me prendre mon appel. Je vais témoigner pour tous les gens originaires du Limousin comme moi, anciennement Limousin, je suis de Brive-la-Gaillarde et je vais reprendre un peu ce que vous avez dit. Donc on est un peu isolé dans le centre de la France, mais pour moi le plus important c'est pas forcément d'avoir un TGV qui roule à 300 km/h, mais déjà des trains comme l'Intercité, des trains fiables avec des fréquences correctes, un réseau fiable qui tombe pas en panne et des temps de trajet corrects aussi. Ce que je note c'est une dégradation depuis 20-30 ans de tout ce que je viens de dire, tous les critères que je viens de dire. Les temps de trajet augmentent considérablement parce qu'il y a moins de trains et plus de gares sont desservies. Et ça augmente les temps de trajet de plus de 50% vers Toulouse ou vers Paris. Alors je ne parle même pas donc des fréquences qui sont ridicules en ce moment sur l'intercité qui fait Paris-Toulouse. Et donc vous avez parlé du Bordeaux-Lyon, vous avez parlé de ce problème de centralisation. Je voulais juste partager un témoignage. Moi j'ai vécu 17 ans en Allemagne. Alors le réseau très critiquable en ce moment sur les infrastructures, ils ont des gros problèmes certes, mais en attendant il est très quadrillé. Et pour aller d'un point à un autre, il y a plusieurs possibilités. Les trains iront peut-être pas à 300 km/h, mais peut-être à 200. Mais on avance et on a plusieurs possibilités pour aller d'un point A à un point B. Je trouvais ça très confortable en fait, c'est plus pratique.
Merci beaucoup Marie-Hélène. Pour votre appel au téléphone sonne. Pour vous répondre avec nous ce soir, François de Lettraz, bonsoir.
Bonsoir.
Président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports, si vous entendez la FNOT, c'est bien de ça qu'il s'agit, la Fédération des Associations d'Usagers des Transports. Et bonsoir à vous Gilles Dansard.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du média d'information mobilettre.com qui est spécialiste des questions relatives aux mobilités et aux transports. On a Marie-Hélène qui nous dit qu'effectivement à la limite c'est même pas tellement du TGV qu'elle aimerait, c'est même pas forcément du 300 km/h ou 320 pour certaines portions de TGV, mais à la limite juste un train qui fonctionne, qui soit régulier, qui soit ponctuel, et c'est carrément tout un sujet. Et en même temps, je rouvrais la carte de France parce que je suis évidemment très très fort en géographie, mais quand même, c'est important de se redire que Brive-la-Gaillarde, si on trace une ligne Bordeaux-Lyon, c'est pile dessus, enfin franchement où le trait est même pas si épais que c'est vraiment dessus entre Bordeaux et Lyon. Comment vous avez réagi quand vous avez appris, Gilles Dansard, que la SNCF recréait un Bordeaux-Lyon où, comme nous le dit un de nos auditeurs, c'est pas une nouvelle ligne, c'est une nouvelle desserte sur des lignes existantes et que ce Bordeaux-Lyon ne passe pas par le tracé, j'allais dire, à vol d'oiseau.
Ça n'est que la poursuite d'une longue histoire, c'est-à-dire d'une priorité absolue au TGV depuis 50 ans. On peut dire que le TGV a coûté très très cher, il a coûté très cher au pays, aux contribuables, voire même aujourd'hui aux passagers qui se plaignent d'une tarification trop élevée, mais il a coûté très cher aussi à tous ces territoires qui n'étaient pas suffisamment denses pour recevoir des lignes à grande vitesse. Et donc, on a transféré une grande part des voyageurs vers ces TGV, sur des lignes effectivement en étoile, au détriment de toutes ces liaisons dites transversales qui pourtant, pour un certain nombre d'entre elles, sont encore tout à fait valides. Je prends l'exemple de Bordeaux-Marseille, qui a de grandes difficultés de ponctualité. Il y a beaucoup, beaucoup de monde dans les trains et il pourrait y en avoir encore davantage si le service était de qualité.
Donc là, Bordeaux-Marseille, c'est une ligne qui, j'imagine, passe par Toulouse.
Elle passe par Toulouse.
Toulouse-Montpellier-Marseille.
Et le long de la Méditerranée. Et donc, toutes ces liaisons transversales, certaines ont été vraiment très abandonnées, d'autres sont dans un état assez lamentable, et ça montre bien qu'on ne s'en est pas occupé, parce qu'on a transféré la valeur, d'une certaine façon, vers le TGV, et quelque part, de façon très inavouée, les élus ont considéré que la route, finalement, avec la modernisation, non seulement des infrastructures, on a construit quand même beaucoup d'autoroutes, mais aussi des véhicules. Les constructeurs automobiles ont fait beaucoup de progrès en 50 ans, et bien finalement que ça allait faire une sorte de relais. Et donc cette vision d'une France ferroviaire limitée à un grand réseau à grande vitesse, à quelques métropoles, parce que là, il faut bien des services au quotidien très développés pour le domicile-travail, eh bien, ça allait être le rail de demain. Eh bien, c'était finalement une erreur, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une demande phénoménale de trains, de se déplacer autrement, et que finalement, les Allemands, qui ont deux fois plus de monde dans les trains comparativement aux Français...
C'est-à-dire que l'usage est beaucoup plus développé en Allemagne.
Oui, quasiment deux fois plus. Eh bien, finalement, ils avaient raison. Alors certes, c'est une géographie un peu particulière. Paris écrase tout en France. En Allemagne, il y a beaucoup plus de métropoles un peu partout. Mais quand même, il y a une vraie différence. Et donc, nous, on a vraiment tout sacrifié au TGV.
François Delétras, de la Fédération des usagers des transports, on n'a jamais envisagé, en tout cas sérieusement, et j'allais dire, vu de Paris, une ligne de TGV, une LGV, une ligne à grande vitesse, vraiment ce côté circuit de Formule 1 qui permet au TGV d'aller à 300 km/h, entre Bordeaux et Lyon. Ça n'a jamais été sur la table ?
Non, jamais. Mais bon, le TGV, il faut savoir que c'est un train qui a été conçu pour aller de grosse métropole à grosse métropole. C'est un train qui freine mal et qui démarre mal. Donc moins il s'arrête, mieux il se porte. Donc le TGV, le développement de TGV se fait toujours au détriment des villes moyennes. Et regardez la SNCF aujourd'hui, elle n'a quasiment aucune ligne en train classique, sauf celles gérées par l'État qui sont en intercité, et tout le reste c'est du TGV.
Alors qu'il y a... Oui, ça veut dire que si on veut aller de Paris à Marseille par exemple, alors c'est peut-être moins le cas maintenant avec les Ouigo vitesse classique, on y reviendra peut-être, mais en gros quand on veut faire de la grande ligne et qu'il y a des TGV, c'est TGV ou rien, souvent.
Ah bah, dans la plupart des cas, c'est ça.
Le train égale le TGV, c'est aussi pour ça que tout le monde veut son TGV.
Bien sûr, et puis bon, c'est une notion politique. On a été à Toulouse il n'y a pas longtemps, Carole Delga dit c'est inadmissible que Toulouse n'ait pas son TGV, alors qu'on en a besoin. Non, est-ce que Toulouse a besoin d'un TGV ? Est-ce que c'est une condition sine qua non que toutes les villes de France aient un TGV ? Il faut du train.
J'avoue que je suis surpris, parce que vous représentez les usagers et vous nous dites Toulouse n'a pas besoin de TGV.
Non.
Pourquoi ?
Parce que Toulouse a besoin d'une ligne transversale de qualité entre Bordeaux et Marseille, avec une fréquence énorme, et que des passagers puissent le prendre facilement. Et que demain, l'ouverture vers Toulouse, ça sera vers l'Espagne, et que la relation avec Paris sera de moins en moins forte. On est de moins en moins jacobin. Regardez ce qui se passe dans l'aérien entre Toulouse et Paris. La chute des allers-retours journées des hommes d'affaires est colossale. Et les compagnies aériennes réduisent les fréquences. Donc le besoin de Toulouse d'être connecté à Paris en moins de 3 heures est beaucoup moins important aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois. Toulouse a besoin d'être connectée au territoire.
Et à la fois qu'il le fout la poule. C'est-à-dire que si on avait mis, c'est toujours impossible de savoir, c'est le fameux contrefactuel, s'il y avait eu une ligne de TGV Paris-Toulouse, où on aurait mis Toulouse à quoi, 2h30, 3h de Paris, est-ce que le développement n'aurait pas été autre ?
Non, vous auriez eu deux villes qui auraient trinqué au passage, c'est Agen et Montauban.
Parce qu'elle rayonne de l'activité de Toulouse comme métropole.
Et qu'on a, toute ville moyenne a besoin d'un moyen de transport. Si vous avez un train qui s'y passe et qui ne s'arrête pas, c'est un vrai problème. Et le problème du TGV, c'est celui-là.
On va rejoindre Pierre-Jean qui est au standard. Bonsoir Pierre-Jean.
Oui, bonsoir. Merci de recevoir mon appel.
On vous écoute.
Alors oui, moi je voulais réagir puisque je suis ingénieur et je travaille pour SNCF Réseau. Et je n'ai pas d'avis particulier sur la question spécifique de la ligne dont vous parlez. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir donner mon témoignage pour éclairer un peu le débat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup de personnes, SNCF, c'est resté la grande maison que c'est depuis plus de 80 ans. Mais depuis quelques années, avec la décision de mettre le ferroviaire en concurrence, SNCF, c'est un groupe qui a été découpé en plusieurs morceaux, et parmi lesquels, pour simplifier très fortement, il y a deux grands groupes. Le groupe SNCF Réseau, qui s'occupe de créer les voies de chemin de fer, les entretenir et les moderniser, et le groupe SNCF Voyageurs, qui est chargé, et qui est une entreprise ferroviaire comme les autres, qui est chargée de mettre les trains sur ces voies de chemin de fer. Et donc du coup, demain, c'est déjà le cas aujourd'hui, les entreprises ferroviaires de SNCF Voyageurs sont des entreprises ferroviaires comme les autres. Elles peuvent être concurrencées par d'autres entreprises ferroviaires, comme on parle souvent de Trenitalia en Italie, de la Renfe en Espagne, ou de la Deutsche Bahn en Allemagne. Et on parle aussi pas mal en ce moment des concurrents de TGV SNCF Voyageurs, avec l'arrivée de Velvet, du train, ce genre de nouvelles entreprises qui vont arriver sur la grande vitesse. Et donc, il faut bien comprendre que le TGV n'est pas un service public. Le TGV, c'est bien un service privé et dont le financement est assuré à 100% par les voyageurs qui achètent leurs billets. C'est pour ça que le billet de TGV est plus cher. Et à contrario, et je rejoins monsieur de la FNOT, je pense qu'aujourd'hui, le besoin au quotidien, c'est vraiment ce qu'on appelle le train du quotidien, c'est le TER. Et le TER, pour le coup, il est financé par les régions, par l'État, par les services publics. C'est un service public, le TER. Et du coup, là, pour rassurer, SNCF Réseau, en tout cas, SNCF Réseau a investi massivement et va investir massivement dans les prochaines années dans la modernisation du réseau ferroviaire pour mettre plus de trains. Mmh. Alors plus de trains, c'est plus de TER, mais c'est aussi plus de TGV. Donc voilà, c'est très compliqué le ferroviaire. Mais là où je rejoins effectivement, c'est que comparer la situation de la France avec la situation allemande ou la situation suisse, où le train fonctionne très très bien, c'est que effectivement on a un réseau beaucoup plus maillé, beaucoup plus dense dans ces pays-là. Là où en France on est dans un réseau beaucoup plus en étoile, et donc forcément quand on veut passer par des lignes à grande vitesse, donc ces lignes qui permettent de par leur configuration,
les réseaux ont été bâtis différemment. C'est ça aussi que vous nous dites, Pierre-Jean. Et vous avez prononcé une phrase qui, je pense, a dû faire sursauter beaucoup d'auditeurs, mais on s'y attendait. Et nos deux experts ce soir ont à ce moment-là levé le doigt pour dire moi je veux intervenir. Le TGV n'est pas un service public, et d'ailleurs d'autres auditeurs, auditrices en l'occurrence, Frédéric qui nous dit la SNCF n'est hélas plus un service public. Alors d'ailleurs peut-être confusion, SNCF d'un côté, TGV de l'autre, et Pierre-Jean qui est ingénieur à SNCF Réseau a bien fait le distinguo, nous a dit la SNCF d'aujourd'hui n'est plus celle il y a 80 ans, on a peut-être tous en tête l'image de ces grandes entreprises publiques, d'ailleurs peut-être pareil pour La Poste, pour à l'époque France Télécom devenue Orange, ces entreprises qui se sont modernisées, en partie parfois privatisées pour le cas d'Orange. Gilles Dansard de Mobilettre, est-il vrai que le TGV n'est pas un service public?
Oui.
Est-il vrai qu'il ne reçoit pas d'argent public?
Si on essaie de simplifier, quand vous payez votre billet de TGV, assez cher au regard des comparaisons européennes, vous le payez parce que les péages sont très élevés. Les péages, c'est comme les péages d'autoroute pour les voitures. Hein. On paye SNCF.
C'est ce que nous expliquait Pierre-Jean. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté SNCF Réseau qui s'occupe des voies, des rails, et qui donc fait payer des péages à ceux qui roulent dessus. Et de l'autre côté, ceux qui roulent dessus, c'est SNCF Voyageurs qui vous fait acheter votre billet de train.
Donc déjà, ces péages sont très élevés. C'est-à-dire ils sont supérieurs au coût d'exploitation, de maintenance et de modernisation des lignes TGV. Donc, déjà, SNCF Réseau, je simplifie, fait du bénéfice grâce à ces péages très élevés. Et deuxièmement, les bénéfices faits par SNCF Voyageurs sur le prix global du billet servent aussi à entretenir une partie du réseau. C'est-à-dire que l'État, qui est actionnaire de SNCF et qui valide les politiques de ces deux entreprises, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, l'État a fait le choix de faire payer le voyageur plutôt que le contribuable. Et c'est ça qui choque un peu les voyageurs, c'est que s'ils payent autant, c'est parce que l'État a décidé de moins financer le ferroviaire qu'il ne l'a fait à une certaine époque, ou que ne le font encore la plupart de nos voisins européens. On est quasiment les derniers dans le classement des subventions publiques de l'État à l'infrastructure ferroviaire.
Mais il y a pourtant quand même de l'argent public, y compris dans le TGV. Je prends par exemple les lignes qui ont été décidées au moment de la crise de 2007-2008. C'était un plan de relance.
Sur la construction.
À ce moment-là, on a mis de l'argent public pour construire des nouvelles lignes. Et je pense aussi à une partie de la dette de la SNCF qui a été reprise à un moment donné par l'État. Et peut-être qu'il y avait aussi de la dette TGV quelque part là-dedans.
Ça, c'était de la dette de construction de ces lignes. Comme il y a une dette liée à la construction des autoroutes, à la construction des aéroports. Ça,
mais c'est donc pour mon billet dette... de TGV, quand j'utilise un TGV qui roule sur des voies, là, pour le coup, ce n'est pas du tout du service
pas
public.
Pas du tout. Là, ça n'est plus du service public. Et le modèle est entièrement... entièrement basé sur la tarification du voyageur.
François Delétraz.
Quand vous pouvez s'acheter un billet de TGV à 100 euros, vous avez 40 euros qui vont pour le réseau et 10 euros qui vont à la TVA. Quand vous êtes en Italie, vous avez 15 euros qui vont au réseau. Et quand vous êtes en Suède, vous avez 8 euros qui vont au réseau.
Donc 50 en France, 15 en...
40 en France, 15 en Italie, 8 en Suède. Donc vous voyez bien que...
Donc là, vous nous dites qu'il y a un boulet au pied, un boulet aux roues des TGV français qui est sur les péages ferroviaires par rapport à leurs concurrents des autres pays.
Et c'est le passager qui le paye. Et alors, ce n'est pas des concurrents, puisqu'on est dans des infrastructures différentes, mais ça veut dire que le billet du TGV en France, il supporte... la construction et le financement d'une infrastructure que les autres passagers en Europe, dans les autres pays européens, ne supportent pas. Et ça, c'est parce que l'État a décidé que, bien qu'il soit propriétaire du réseau, c'est pas lui qui l'entretient, il le fait entretenir par les passagers. Donc vous voyez qu'on a une inadéquation politique en France, où on dit aux gens, prenez le train, il faut décarboner le transport de masse, etc. Et en fait, on fait tout pour que ce soit le passager qui paye le plus possible.
On continue sur cette affaire des transversales avec Myriam qui est au standard. Bonsoir Myriam.
Oui, bonsoir à tous. Oui, petit témoignage, moi j'ai une de mes filles qui vit à Brest avec mes petites filles. Donc, si je vais aller voir mes enfants...
Vous êtes à Lyon.
Je suis à Lyon, oui. J'ai le choix entre le TGV avec une correspondance. Donc, je vais mettre entre 7h30 et 8h pour environ 400 euros selon les dates. Et si je prends l'avion, je ne paie que 300 euros et je mets 1h30. Donc, ça veut dire que je gagne 2 jours de visite chez mes enfants et un petit peu d'argent. Donc si demain la SNCF me proposait un aller-retour à 200 euros, ben, je ne prendrais plus l'avion, je prendrais le train.
Effectivement, Lyon-Brest, vous avez dit pour combien ça vous revenait en train ?
400 euros. Environ 400 euros et en avion 300 et j'ai 8 heures en train et 1h30 en avion.
Et c'est vrai que là on voit tout de suite l'énorme différence entre des destinations de deux villes de province plutôt que de partir de Paris et même quand on va loin à Marseille ou Nice depuis Paris, la distance est peut-être ressembler à celle de Lyon-Brest, c'est nettement moins cher. Qui prend les décisions de construire de nouvelles lignes à grande vitesse, ces fameuses LGV, Gilles Dansart?
Ah, ça reste l'État. Ça reste une... Ça reste
la SNCF ne pourrait pas dire, je veux faire circuler des Lyon-Bordeaux, je vais faire ce qu'il faut. On sait que c'est pas simple de faire des travaux d'envergure qui traversent toute une région. Mais je vais le décider, je vais le payer.
Non, la construction d'une ligne à grande vitesse, c'est l'État. En revanche, la décision de mettre un TGV entre Lyon et Bordeaux via Massy, ça reste du ressort de SNCF Voyageurs. Donc il faut bien différencier l'infrastructure, ça reste une décision 100% publique de l'État, et puis c'est SNCF.
Est-ce qu'il y a parfois une confusion, un conflit de décision, d'impulsion, puisque la SNCF est une entreprise, gère son commerce, et pourrait avoir envie de faire telle ou telle chose, et peut-être freinée par l'État? J'imagine qu'il y a des discussions sur ce genre de projet qui doivent être pas simples à prendre.
On peut considérer que l'État n'est pas un actionnaire très averti de la SNCF, parce que l'État déjà... à plusieurs chapelles. Il y a le ministère des Transports, il y a Bercy, il y a Matignon, il y a l'Élysée. Ça commence par
et ça bouge beaucoup depuis quelques mois.
Et ça bouge beaucoup. Ça commence par l'injonction traditionnelle de l'Élysée, je ne veux pas de grève. Après, on descend à Matignon, qui est un peu sensible au territoire, Bercy, qui est sensible aux comptes, et les transports, qui est un peu sensible à tout. Donc, on voit bien que tout ça n'est pas clair. Donc, déjà, la tutelle est désordonnée. Et puis, ça varie au cours du temps. Et c'est très difficile d'imposer sur une longue période une logique. Et c'est bien ça qui pose problème en matière ferroviaire, c'est-à-dire que finalement la SNCF a réussi à imposer avec, j'allais dire, la complicité et le soutien d'une grande partie de l'appareil d'État, une vision rétrécie du réseau ferroviaire. Et cette vision rétrécie, aujourd'hui, elle est percutée par deux choses. Premièrement, la demande des Français, qui veulent plus de trains. Toutes les enquêtes le montrent. Les trains sont complets. Aujourd'hui, il y a plus de 30% des trains qui vont circuler à Noël qui sont complets. C'est beaucoup. Et puis, deuxième facteur, la décarbonation des mobilités, hein, cette lutte contre le réchauffement climatique et le choix de faire des mobilités plus propres, et bien là aussi, c'est un puissant facteur. Donc, on voit bien que toute la politique qui a consisté à réduire ce réseau ferroviaire pour le concentrer sur la grande vitesse et quelques métropoles, eh bien, c'est contredit par l'histoire. Et donc, on est dans ce moment difficile où il y a un vrai hiatus entre cette demande et puis l'offre telle qu'elle a été configurée depuis 30 ans.
Autre territoire qui aimerait peut-être avoir son TGV, on va demander à la présidente de ce conseil départemental. Bonsoir Valérie Simonnet.
Bonsoir.
Vous présidez le conseil départemental de la Creuse. Y a-t-il des TGV dans la Creuse qui s'arrêtent ou qui passent?
Non. Nous n'avons plus qu'une gare active qui dessert la ligne vers Paris et une autre, celle de la Souterraine, et une autre à Guéret qui est justement située sur cette historique ligne Bordeaux-Lyon.
Qui est donc voilà, sur donc la ligne du TGV, mais les TGV ne s'y arrêtent plus, puisqu'ils ont circulé, je crois, et s'arrêtaient à la Souterraine entre 2017 et, de 2007 et 2016, je crois.
Liaison jusqu'à Lille, en effet, en passant par Paris, bien sûr.
Qu'est-ce qui fait que ça a existé et que ça n'existe plus?
Écoutez, on a d'énormes problématiques sur les deux lignes qui descendent de Paris dans le Massif central. Hein. C'est Paris, Orléans, donc la Souterraine, Limoges-Brive, et de l'autre côté, Paris, Montluçon, Clermont.
Qui sont des lignes intercités. Hein.
Ouais, c'est des lignes nationales. Sur le POLT, donc vers Limoges, les travaux sont en cours, des rames vont être changées. Sur Clermont, c'est une catastrophe. Et donc, nous avons appris début décembre que nous allions, parce qu'on connaît l'histoire, hein, nous allions être rayés de la carte du réseau ferroviaire national. Pourquoi ? Parce que cette liaison, elle dessert vraiment les départements, la Haute-Vienne, la Creuse, l'Allier, le Puy-de-Dôme, et que sans cette transversale, hors de question d'aller vers les métropoles, ce que sont Bordeaux ou Lyon dans quelques temps. Et puis, quand je dis qu'on connaît l'histoire, c'est tout simplement parce que SNCF ne fait pas de travaux sur la ligne. Les horaires ne sont plus du tout adaptés aux besoins des usagers. Pas d'aller-retour dans la journée, par exemple, hein, au cœur du massif. Donc, évidemment, s'il n'y a pas assez d'utilisateurs, on nous dit que ces lignes ne sont pas rentables. Donc, et ça continue, on ne fait pas de travaux. Et donc, finalement, on arrête. Et cette annonce d'un TGV qui passe par Massy et qui évite le Massif central, pour nous, c'est la condamnation annoncée avant l'heure de tout espoir d'avoir cette transversale par le Massif central.
Vous dites on va être rayé de la carte, c'est-à-dire que pour vous, c'est le début c'est l'accélération peut-être d'une désertification?
Oui, je crois que c'est clair. Hein. Aujourd'hui, la SNCF ne mettra pas un euro dans cette ligne transversale qui nous intéresse, nous aussi, pour aller d'est en ouest et vers d'autres métropoles. Il n'y a pas que Paris non plus en France.
Et à qui en voulez-vous, Valérie Simonnet? C'est à la SNCF précisément ou c'est à l'ensemble des acteurs, donc l'État, les ministères, le côté compte public, la SNCF aussi, et puis peut-être vos collègues présidents de département, présidents de région?
Non, je crois que c'est une vision nationale, ça a été dit au cours de l'émission. On a favorisé les lignes TGV, très bien, mais l'État doit être garant d'un aménagement du territoire. Il doit être le garant pour chaque citoyen français d'un accès à des mobilités qu'il souhaite aujourd'hui, hein, et le train fait partie de cela. Nous, on déploie de la fibre, hein, du très haut débit pour être connecté au monde entier. Par contre, les gens qui font du télétravail dans des départements comme les nôtres, eh bien, ils veulent pouvoir faire des allers-retours réguliers, en tout cas en journée, vers une métropole, là où souvent sont les sièges des grandes entreprises. Donc, sans ces liaisons ferroviaires qui nous emmènent vers les grandes métropoles, c'est un coup de massue, encore une fois, qui est fait à la ruralité dans le Massif central.
Merci beaucoup Valérie Simonnet, présidente Les Républicains du Conseil départemental de la Creuse. François Delétrage, je me tourne à nouveau vers vous. Ces LGV, elles sont donc figées en quelque sorte depuis 2017. En tout cas, quand Emmanuel Macron arrive à l'Élysée en 2017, il inaugure la ligne Paris-Rennes et la ligne Paris-Bordeaux, qui avait été décidée quelques années avant au moment de la crise, on en a parlé. Et ce soir-là, alors qu'il inaugure deux nouvelles lignes de TGV, il dit « on s'arrête là, on fait une pause ». Il y a peut-être l'exception du Bordeaux-Toulouse, qui est un peu en stand-by?
Non, il n'y a pas d'exception. Il dit on s'arrête là. Malheureusement, les politiques et les gens des territoires veulent absolument avoir leur TGV au lieu de demander du train. Et tout l'hiatus est là.
On a entendu Marie-Hélène ainsi que Valérie Simonnet qui nous disent qu'il faut déjà que les lignes fonctionnent.
Existantes fonctionnent. Mais ce n'est pas à la SNCF à faire ça. C'est à l'État à décider quel réseau il veut et combien d'argent il met dans le réseau pour qu'il y ait des trains qui roulent. C'est bien gentil de dire à la SNCF on veut que vous fassiez du Bordeaux-Lyon en passant par le Massif Central. Si la ligne n'est pas électrifiée et si à un moment il y a 20 km de lignes qui ne sont pas en état et que le train ne peut plus rouler, la SNCF ne peut pas le faire rouler. La SNCF, c'est un opérateur. Donc, ils font rouler des trains si c'est à l'État à décider que le réseau structurant, comme on l'appelle, soit en état de recevoir des lignes et du train. Et on n'a pas besoin de faire du TGV partout. On manque de trains en France dans tous les sens, partout. Il faut faire du train.
Ça représente quoi, la subvention, Gilles Dansart, sur un billet intercité Paris-Clermont ou Paris-Limoges ?
On est à... On doit être aujourd'hui à 30% de subvention, quelque chose comme ça, oui. Sur un Paris-Clermont.
Donc c'est significatif, mais on a l'impression que c'est évidemment pas suffisant pour que, un, les matériels roulant, les trains soient en état, et deux, les lignes soient en état.
C'est surtout le matériel qui a posé problème. Ce que décrivait votre auditrice est bien connu. C'est-à-dire, on laisse se dégrader le matériel, on n'en rachète pas du nouveau. On diminue les fréquences, donc il y a moins de monde aussi dans les trains. Et à la fin, on dit qu'il n'y a plus assez de monde pour justifier des investissements. Et ça, ça a touché aussi beaucoup les trains de nuit. Souvenons-nous, il y a 10 ans, quasiment les trains de nuit étaient morts en France. Parce que, effectivement, les matériels n'étaient pas de qualité et on avait réduit la qualité de service et les fréquences. Aujourd'hui, les trains de nuit sont pratiquement tous complets.
Marie-Thérèse sur WhatsApp nous dit « Arrêtons le tout vitesse et remettons les trains de nuit ».
Et de fait, les jeunes, les retraités, des adeptes du télétravail qui de temps en temps vont dans la capitale ou vont dans ces trains de nuit qui sont...
Ça marche vraiment parce que
ça marche vraiment. Paris-Toulouse.
C'est plébiscité quasiment d'un point de vue un peu mythique, légende. J'étais jeune, je prenais le train de nuit. Est-ce qu'ils sont vraiment remplis ces trains de nuit qui ont été remis un peu en circulation depuis le Covid?
Allez à la gare d'Austerlitz, vous allez voir des Paris-Toulouse complets, des Paris-Briançon complets, etc. Donc il y a une demande, encore une fois. Avec des tarifs qui sont moins élevés que le TGV.
Oui, sauf que ce n'est pas rentable.
C'est subventionné.
Il faut baisser le péage des réseaux.
Il n'y a pas d'autre solution. Si on veut que le train de nuit ou le train de jour devienne rentable, il faut que le réseau ne coûte pas grand-chose à l'opérateur. Flixbus avait pendant un temps pensé à relancer les corails. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que le coût du réseau, même en train classique, est trop élevé pour qu'il y ait une rentabilité possible sur ces lignes-là.
L'exemple italien était excellent parce que entre Rome et Milan, l'État italien, avec son gestionnaire d'infrastructure, a décidé de diviser par deux le péage. Ça a fait 100%, plus 100%, ça a doublé la fréquentation entre Rome et Milan, ça a tué l'avion et largement fait baisser la circulation automobile.
Alors ce que je ne comprends pas, c'est que vous nous dites tous les deux les péages sont trop chers en France, il faudrait les baisser, et à la fois on comprend que les réseaux, notamment cette fameuse ligne Paris-Limoges et l'autre Paris-Clermont-Ferrand, ne sont pas en bon état. Donc comment est-ce qu'on finance si on baisse les péages ?
C'est à l'État à financer, c'est pas aux passagers. L'erreur française est de penser que le passager peut tout payer. C'est pas possible. Aucune structure ferroviaire dans le monde ne peut se faire payer par les passagers. Il faut obligatoirement une puissance publique. C'est comme les routes départementales.
On entend bien la différence entre contribuable et voyageur.
Exactement. Et le contribuable doit contribuer au réseau ferré comme il contribue au réseau des routes. Sinon, on n'y arrivera jamais et on ne décarbonera jamais.
Avec une petite péréquation, c'est-à-dire les bénéfices des lignes les plus rentables doivent aider. C'est ça le principe d'un réseau ferroviaire, d'un réseau électrique par exemple. C'est la péréquation où les bénéfices aident à payer ce qui est moins...
On marche sur la tête en France. Donc il y a le TGV qui n'est pas subventionné, vous avez l'intercité qui est subventionné par l'État et vous avez les TER qu'on va appeler comme ça mais qui s'appellent Zou, Aléop, etc. selon les régions.
Rémi,
entre autres, Fluo, Lio, enfin j'en passais des meilleurs.
C'est chaque conseil régional qui a donné son petit nom à son train.
Son petit nom, parce qu'ils sont comme, vous voyez, quand vous accédez à la propriété, vous voulez votre maison sans souci. Et donc, dans le TER, il faut savoir que le passager ne paye que 30% du coût. Et que 70% du coût est supporté par la région, mais que dans ces 70% du coût, il y a une énorme part qui va au réseau. Donc, vous voyez, on se marche sur la tête. L'État ne finance pas le réseau. Les régions subventionnent le TER pour que les gens aient des billets pas trop chers, mais ça permet de payer le réseau. Donc, comment vous dire ? Il faut absolument qu'un jour, quelqu'un ait le courage de dire, ben voilà ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un réseau structurant ? Est-ce qu'on veut que du TGV ? Est-ce qu'on veut qu'il y ait des correspondances entre le TER et les TGV ? Est-ce qu'on veut que les gens puissent aller d'un endroit à l'autre ? Et peut-être qu'à ce moment-là, le train sera un peu moins cher que l'avion.
Pas sûr qu'on dise un jour on veut que du TGV, sachant que les coûts de construction des lignes à grande vitesse sont explosés. Je crois que les dernières étaient autour de 25 millions d'euros du kilomètre.
Oui, même un peu plus, même jusqu'à 30 millions. On ne construira plus de lignes à grande vitesse.
Donc 3 milliards d'euros pour 100 kilomètres, juste pour la voie.
Oui, hormis peut-être, c'est en débat aujourd'hui, le Bordeaux-Toulouse, et puis la fin du barreau méditerranéen entre Montpellier, Béziers et Perpignan. Mis à part ça, il y aura aussi un petit morceau, Roissy-Creil, un petit barreau, mais ce n'est pas grand-chose. On ne construira plus de lignes à grande vitesse, en tout cas dans les 20 ans qui viennent.
Si on construit des nouvelles lignes, ce sera des lignes normales. On doublera le réseau, mais avec des lignes traditionnelles.
Et sur les lignes normales, un train, qu'il soit TGV ou classique, il peut rouler jusqu'à combien ?
220.
Ça, c'est pour un TGV et un train...
Non, pour un train normal.
Un train normal roule jusqu'à 220.
Sur les lignes nouvelles, il peut aller jusqu'à 200-220.
Il n'y a pas d'intérêt économique à faire rouler un TGV sur des lignes classiques.
Mais c'est parfois ce qu'on a décidé dans le passé. On n'avait plus commandé.
C'est aussi une petite aberration, d'un point de vue purement économique, que de faire circuler des rames extrêmement chères sur des chemins vicinaux, si je prends la comparaison. Et ça n'est pas pertinent.
Faire rouler une Formule 1 sur un chemin de campagne.
Et on a aussi habitué les Français à les emmener en TGV du début à la fin.
Oui.
C'est-à-dire qu'on les emmène, comme vous le disiez tout à l'heure, jusqu'au Croisic.
Alors le Croisic, c'est après la Baule, c'est après Saint-Nazaire, c'est après Nantes.
Et une grande partie du trajet se fait sur des lignes où on ne peut pas aller très vite. Et donc, c'est une aberration économique parce qu'on n'a pas su proposer aux Français une logique de correspondance de qualité. Les Français ont peur de ne pas avoir leur correspondance parce que le TER n'est pas à l'heure ou il reste une demi-heure sur le quai, etc. Et ça pose aussi des problèmes d'un point de vue purement économique.
Alors sur ce TGV qui s'arrête partout, l'un de vous deux disait tout à l'heure, en plus il accélère lentement, il ralentit lentement. On a un auditeur qui est conducteur de train et qui nous a dit « c'est faux, le TGV ne met que 3 km pour s'arrêter ». Je laisse chacun juger de la vitesse à laquelle il arrête sa voiture ou son train. On va retourner au standard.
300 km/h.
Bien sûr, à 300 km/h et avec une petite masse quand même. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Merci d'avoir appelé le téléphone sonne, on vous écoute.
Merci à vous d'avoir pris mon appel. Moi, je me posais la question, pourquoi on n'installe pas, on n'aménage pas, les lignes existantes en faisant que les trains puissent rouler à 200-250 km/h, ce qui serait avantageux pour tout le monde, pour les TER, les intercités, ce qui laisserait de la temporalité même pour aller de grande ville à grande ville, c'est-à-dire que par exemple la Polte à 250 km/h ou entre 200 et 250, ça mettrait 3h20, 3h30 pour aller de Toulouse à Paris, au lieu de passer par Bordeaux pour faire 3h. J'avoue, je comprends pas. Est-ce que je peux apporter une petite précision au débat ?
Allez-y.
De dire que, par exemple, la Bordeaux-Toulouse est en discussion, mais il commence bien les travaux quand même. Elle était évaluée déjà en 2015, je dis bien en 2015, à 15 milliards, 14 milliards. Aujourd'hui, elle serait plus près de 30 milliards avec les augmentations de coûts. Et je tiens à dire aussi que les gens qui habitent à moins de 60 km d'une gare qui va de Bordeaux à Toulouse paye déjà une taxe pour sa construction depuis 3 ans.
Oui, donc ils sont censés être déjà intéressés à la construction de cette ligne. Non, donc vous me dites que
ça veut dire que l'impôt, il participe. Oui. Mais pourquoi que ceux... alors je crois qu'il y a 2000...
Pourquoi que ceux autour de cette ligne et pas, à la limite, tous les Français se considèrent que c'est un phénomène national.
C'était juste une petite précision que je voulais porter là-dessus, on paye une TSE, une taxe sur les équipements, et c'est pour la LGV.
Merci beaucoup Dominique, et on va écouter la réponse de Gilles Dansard, le directeur de Mobilettre.
Alors effectivement, les coûts ont augmenté. Il faut préciser que ça n'est pas simplement le projet Bordeaux-Toulouse. C'est un projet qui a deux branches. Il y a une branche de Bordeaux à Toulouse et une branche de Bordeaux à Dax, vers le Pays Basque. Et que La France est un peu coincée parce qu'elle a vendu à l'Europe pour avoir une subvention européenne qu'elle ferait les deux. Et aujourd'hui, elle hésite, elle tergiverse, et donc elle risque de perdre la subvention européenne si elle ne fait pas la branche vers l'Espagne via le Pays Basque. Donc il y a beaucoup de discussions actuellement. Les modèles économiques tournent dans les agences gouvernementales françaises pour savoir si tout ça est bien raisonnable. Et donc, logiquement, mais on a un gouvernement politiquement faible, donc je ne vois pas comment il va pouvoir gérer cette situation au début de l'année prochaine. Logiquement, on devrait y avoir un atterrissage et une décision prise sur ce double projet, mais qui, effectivement, coûte très cher.
On a prononcé tout à l'heure le mot de péréquation, et je me demandais si, aujourd'hui encore, quand je paye un billet de TGV, celui-ci finance en partie les autres lignes.
Bien sûr.
Il finance que les lignes TGV.
Il finance déjà une partie des frais de structure de la SNCF. Il finance la partie des TGV dont on nous dit qu'elle est déficitaire, hein, des TGV de ville de province à ville de province qui ne passent pas par Paris. Et elle finance aussi une partie d'autres dépenses de SNCF Voyageurs. Ça a été longtemps la vache à lait. Ça ne l'a plus été après la grande crise économique de 2008, où là, il y a une baisse, un décrochage très fort de la fréquentation. Et ça c'est redevenu une vache à lait à mesure que les taux de remplissage des TGV est au-delà de 90%, ce qu'ils sont toujours aujourd'hui avec des prix assez élevés. Donc oui, le TGV paye beaucoup de choses aujourd'hui en France, notamment sur le ferroviaire.
Autre chose qu'on a peut-être effleurée et qui mériterait sans doute une émission entière, c'est cette fameuse ouverture à la concurrence. Ça se fait très progressivement s'agissant du TGV. Les utilisateurs du Paris-Lyon ou du Paris-Lyon-Marseille peuvent voir des trains Paris-Lyon avec Trenitalia, des TGV qui sont rouges, les Frecciarossa. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui ne va arriver que sur des lignes très rentables comme le Paris-Lyon, ou est-ce qu'on peut en voir sur d'autres axes? Est-ce qu'il y a des axes qui sont peut-être délaissés par la SNCF alors qu'ils ont un potentiel pour des acteurs d'ouverture à concurrence? François Delétraze.
Non, on ne verrait ça que sur les axes majeurs, c'est-à-dire Paris-Lyon-Marseille. On va le voir un jour sur le Paris-Bordeaux avec une nouvelle société qui s'appelle Velvet, mais la nouvelle société ne s'arrêtera nulle part. Ça coûte de l'argent à un opérateur de s'arrêter, donc tous les nouveaux opérateurs, ils essayent de s'arrêter le moins possible.
Donc on revient à ce que vous disiez, on démarre, on va à fond, et ensuite on s'arrête que dans la gare terminus.
Et là où on gagne de l'argent, puisque c'est du service librement organisé, on n'est pas là pour faire de la desserte du territoire, on est là pour gagner de l'argent.
Je vais apporter un petit bémol, parce qu'il y a deux autres projets qui veulent s'arrêter justement dans des gares intermédiaires, que ce soit
Kevin
Macron,
et...
ça s'appelle Kevin Speed, ça s'appelle Le Train, qui veut faire aussi des dessertes entre Bordeaux et Rennes, etc. Ne pas faire que de Paris, grande métropole de province. Leur modèle économique, on attend de voir s'il va tenir, mais il y a quand même d'autres conceptions des dessertes, moins jacobines, moins dirigées vers Paris, qui peuvent peut-être réussir, mais ça, c'est les années qui viennent qui nous le diront.
Et je comprends qu'on n'est pas du tout sûr que ce soit rentable et donc que ça tienne la route.
Voilà, il va falloir attendre encore quelques années.
Le train, c'est des très, très grosses mises de fonds.
Oui.
Mais imaginez que tous les deux, on décide de faire une compagnie aérienne. Dans 6 mois, on la crée et on vend des billets et on ouvre un Bordeaux-Lyon sans aucun problème. Mais en train, dans 10 ans, on y est encore.
Oui, parce que pour ce qui concerne Velvet, donc, qui est cette nouvelle entreprise qui va se lancer sur le Paris-Bordeaux, sur un axe ouest, là, ils ont acheté 12 rames pour 1 milliard d'euros. Et voilà, pour l'instant, c'est ça. Ils testent de voir et on verra bien jusqu'où ça va.
Parce qu'il y a une pénurie de rames aujourd'hui, il faut bien dire que tout le fond du problème, c'est ça. La SNCF s'est délestée de trop de rames et aujourd'hui, il n'y a pas assez de rames.
Effectivement, et la SNCF qui attend de nouvelles rames de TGV tout beau tout neuf pour... Alors ça a été souvent reporté, je crois qu'au départ c'était pour les Jeux de 2024 et là on les attend aux dernières nouvelles pour juillet 2026. Merci à tous, Gilles Dansart, François Delétraze, Valérie Simonet aussi qui nous a appelé. Je remercie Pascal qui était au Standard, qui est dans le Cantal et qui voulait aussi lui se plaindre de la faible desserte et en l'occurrence de la non-desserte de son département, le Cantal, par le TGV. Merci à tous, c'était le téléphone sonne. Et tout de suite une question dans quelques instants de Johan qui a 4 ans dans les petits bateaux.
Je voudrais savoir comment on fabrique la brioche. Au revoir, merci.